Vous êtes sur RTL.
C'est ce qu'a dit le Premier ministre hier soir. Aujourd'hui, près de 19 000 classes sont fermées, soit 3,5% d'entre elles. C'est du jamais vu, hein, dans une telle proportion depuis le printemps 2020. Le Conseil constitutionnel, lui, doit donner aujourd'hui son feu vert concernant le pass vaccinal. Ce sera dans l'après-midi, sauf contre-ordre. Il entrera bien en vigueur lundi, a redit Jean Castex. L'actualité, c'est aussi cette rencontre décisive qui a lieu en ce moment même à Genève, face à face entre les chefs de la diplomatie russe et américaine autour de la crise ukrainienne. Et puis un cocorico en ski avec la deuxième place à la mythique descente de Kitzbühel en Autriche pour un Français, Johan Claret, 41 ans, donc qui signe cette performance mythique, hein, nous disait le service des sports de RTL. La météo, c'est avec vous Valérie Quintin. Valérie, dites-nous, on va avoir un bon week-end, beau week-end.
On va surtout avoir un week-end d'une stabilité exemplaire. On garde exactement le même temps qu'on a connu toute la semaine, à savoir toujours beaucoup de soleil pour une large moitié sud et au nord. Eh ben, ça va dépendre de la grisaille du matin. Vraisemblablement, elle aura du mal à se lever quand même samedi, comme dimanche, comme lundi, mardi, mercredi et jeudi aussi d'ailleurs. On va quand même avoir un petit peu de soleil en montagne. Et puis pour le reste de la moitié nord, bah, faut croiser les doigts. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Ce qui est sûr en revanche, c'est que ça va accentuer vraisemblablement les risques de pollution. Quant aux températures, demain matin, ça va descendre à moins 7 degrés à Aurillac. Moins 6 à Auch, moins 5 à Mulhouse, moins 2 à Marseille. Dans l'après-midi, ça remonte comme aujourd'hui, 4 à Ambérieu, 5 à Strasbourg, 7 à Paris et La Rochelle, 8 à Caen et Abbeville, 9 à Nîmes et 13 à Bastia. Même température pour la journée de dimanche.
Eh bien, on reste au chaud. Merci beaucoup Valérie.
Merci Valérie, merci Amandine, qu'on retrouve ce soir.
Oui, 19h15, ils refont la France. Vous savez, on débat de l'actualité avec les correspondants de la presse étrangère. Et on va parler de la journée des câlins. C'est la journée mondiale des câlins.
Non.
Comment les étrangers voient notre bise, la bise française? On aurait pu, mais non, on n'a pas le droit.
Chaise barrière.
Et ce qu'ils regrettent qu'on ne se fasse plus la bise en France, tout ça, ça fait partie des débats du jour.
C'est un sujet essentiel.
Mais
merci également à Sophie Orange, qui est à la rédaction en chef de ce 12h30.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Morgane, donc, qui est gérant de discothèque. Vous êtes fermé depuis quel jour, Morgane?
On est fermé donc depuis mi-décembre et cumulé, on est fermé depuis quasiment 2 ans. Alors, nous sommes contents de rouvrir, Pascal, mais nous n'avons pas le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que le geôlier nous donne les clés de nos ouvertures, bien entendu. On les prend, mais nous ne sommes pas naïfs, nous sommes même très lucides. D'ailleurs, il y a beaucoup de conditionnels et pour l'instant, notre ouverture est très floue. Et quand c'est flou, on espère qu'il n'y a pas de loup.
Est-ce que vous avez des indemnités depuis la dernière fermeture, en l'occurrence le 3 janvier? C'est le 3 janvier que vous avez fermé?
Non, c'était le 8 décembre.
Vous êtes fermé depuis le 8 décembre.
Ouais, nous, de toute façon, on est toujours les premiers à être fermés et les derniers à être ouverts. Alors, bien entendu, on a des aides. Sur le papier, c'est très sexy, même plus que sexy. Mais quand on déshabille un peu la mariée, bon, il reste plus grand chose. Nous n'avons pas encore eu les aides sur nos comptes. C'est-à-dire que nous avons été tout cumulés, fermés 20 mois. Et là, après cette nouvelle fermeture depuis décembre, nous n'avons toujours pas eu, l'argent sur nos comptes. Or, c'est ce qui permet de maintenir en vie l'entreprise après 20 mois de fermeture.
Bon, en gros, il y aura 2 mois et demi durant lesquels vous aurez été fermé. Alors, le masque, Olivier Véran, hier soir, n'a pas répondu d'ailleurs. Est-ce qu'il y aura masque ou pas dans les boîtes de nuit? C'est vrai, Monsieur Sebag, Robert Sebag, que imaginer un masque lorsqu'on est en discothèque, ça fait partie des choses qui paraissent compliquées, disons-le.
En tous les cas, ce qui a été dit hier, c'est qu'il n'y a pas de modification sur le port du masque en intérieur. Donc malheureusement, enfin, peut-être pour les gens des discothèques, le masque sera... Par contre, à la différence de l'Allemagne, ça sera juste le pass vaccinal. Il n'y aura pas ce qu'on appelait le pass 2.0 en Allemagne. C'était le pass vaccinal plus un test PCR ou antigénique négatif de 24 heures. Ça, non. Ça sera uniquement le pass vaccinal. Donc ça fera quand même une démarche, entre guillemets, en moins pour les clients des discothèques.
Morgane,
oui, Bon, ça va pas dans le bon sens pour nous, bien entendu, c'est scientifique. Je veux dire, c'est même pas scientifique de conserver le masque en discothèque, car nous avons une étude scientifique mise en place par l'APHP au mois d'octobre. Vous la savez, mais personne ne la cite sur les plateaux, cette étude. Personne ne la cite. Tout le monde sait que la fermeture des discothèques, c'est une mesure purement politique, politicienne.
Et je dirais symbolique plus que politique, mais ça ressemble.
Moi, je pense qu'on aurait pu, si vous voulez, imposer, c'était pas très compliqué, d'avoir un certain nombre de purificateurs d'air ou de capteurs de CO2 dans les, et avec le bon sens des responsables, à partir du moment où on dépasse un tête d'alerte, on aère ou on fait un système de ventilation, on aurait pu faire quelque chose de ce genre.
Exactement, là, on nous a fermé sur un claquement de doigts alors qu'on avait une étude scientifique qui stipulait qu'il n'y avait pas de surpropagation en discothèque. On se pose énormément de questions. Est-ce qu'on aurait eu le même traitement avec Amazon? Parce que les discothèques représentent 30 à 40 000 employés, Amazon 15 à 20 000. Est-ce qu'on aurait eu le même traitement avec Amazon? On a l'impression vraiment, nous, qu'on est énormément méprisé, et ça dénote surtout un gros mépris pour les petites TPE PME que nous sommes.
Vous êtes un symbole. Donc effectivement, comme la politique c'est aussi du symbole, ben on considère que les gens à 2h du matin, ils sont mieux dans leur lit que en train de danser, faire la fête et pourquoi pas propager le virus. Mais Morgane, moi je suis plutôt d'accord avec vous, donc je ne veux pas vous apporter la contradiction, puisque je pense que vous seriez ouvert depuis le 8 décembre, ça n'aurait rien changé, au fond, à cette période que nous vivons. Et d'ailleurs, il y a 500 000 contaminations par jour, donc je veux bien qu'on m'explique que le fait de fermer des boîtes de nuit a changé quelque chose. Il y a 500 000 contaminations par jour.
Pascal, on veut bien être un symbole, on veut bien être le symbole de tout ce qu'on veut, mais on a avant tout le symbole de la jeunesse et surtout de la vie normale, du retour
c'est
à
vrai.
La vie normale.
C'est vrai aussi.
Donc, alors, et puis c'est un symbole qui coûte quelque chose, c'est-à-dire qu'on met sur le carreau 30 à 40 000 emplois, je veux dire 1300 entreprises. Alors le symbole de la Startup Nation, là on peut l'effacer immédiatement, hein, dans le pays où on nous dit qu'il faut mettre en avant l'entrepreneuriat, lorsqu'on ferme sur un claquement de doigts sans aucune concertation 1300 entreprises, on n'y est pas vraiment. Donc, comme vous le dites, moi je pense qu'on est plus dans le politiquement, dans l'échiquier politique, parce qu'on va nous ouvrir quelques semaines avant une élection présidentielle.
Bon Morgane, vous savez ce qu'on va faire? On va faire comme si on était en boîte de nuit. Voilà. Ah bah Patrick Hernandez, c'est un peu daté quand même. Mais c'est bien, Patrick. C'est notre époque, monsieur Sebag. Ouais.
Hein, et donc à l'époque, il n'y avait pas de cluster.
Bienvenue au Macumba Nights. On peut peut-être faire une petite voix possible dans les boîtes de nuit de temps en temps. Il y a de l'écho, je crois. Hein. Je ne sais pas si notre ami Matic, qui est aux commandes aujourd'hui, peut déjà, aussi rapidement, faire un peu d'écho. Il y a de l'écho ou pas? Allez, il n'y a pas d'écho. Il est 13h09. On marque une pause. Merci Morgane et bon retour. Elle est où votre boîte de nuit?
Elle est à Béthune dans les Hauts-de-France, là où, où on a une grosse chaleur au niveau
non, mais
des
c'est
gens.
Bien, c'est bien de temps en temps, quand on est allé à quand on habite Béthune, d'aller en boîte de nuit. C'est bien.
Exactement.
Merci Morgane, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Bonjour Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Est-ce bientôt le retour des jours heureux? Le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier soir la levée de la plupart des restrictions courant février. Un rappel des principales mesures du gouvernement.
Mercredi 2 février, les équipements qui accueillent du public assis pourront retrouver un fonctionnement sans jauge. Le port du masque plus exigé en extérieur. À compter du mercredi 16 février, la consommation dans les stades, les cinémas et la consommation debout dans les bars pourront reprendre, les discothèques pourront rouvrir.
Mais fallait-il plutôt alléger dès maintenant? Salariés, chefs d'entreprise, dans quel état d'esprit êtes-vous? Nous serons à 13h30 avec Sophie de Menton, présidente du mouvement patronal éthique, patron de boîte de nuit, restaurateur. Là aussi, nous attendons vos avis 3210, 3210.
Mais d'une certaine manière, le gouvernement a réussi sa com' parce que toutes ces restrictions devaient s'arrêter le 24 janvier, c'était ça. Donc hier, il nous a annoncé une prolongation, un maintien. Mais toute la presse ce matin a dit, mais très bien, c'est bientôt la fin du tunnel.
Mais c'est vous.
Quand je vous parlais de syndrome de Stockholm, c'est formidable quand même. C'est-à-dire qu'on a juste prolongé ces mesures hier. Alors effectivement, le 2 février...
Vous savez pourquoi le 2 et pas le 24?
Non.
parce que normalement, ils attendent de la réponse du Conseil constitutionnel concernant le pass vaccinal aujourd'hui. Donc, début du pass vaccinal le lundi 24, officiellement. Et donc, ils attendent une semaine, ce qui va faire à peu près une semaine à 10 jours, pour voir s'il y a un frémissement lié au pass vaccinal. Et c'est pour ça qu'ils ont mis le 2 février.
Bah écoutez, merci Robert Sebag, que vous pouvez interroger, bien évidemment, comme Anne va le faire. Anne est infirmière, vous habitez dans l'Aveyron. Bonjour Anne.
Oui, bonjour Pascal.
Et vous pensez qu'on va trop vite pour libérer tout cela ?
Oui, je crois que là, on est en pleine manœuvre électorale et on va beaucoup, beaucoup trop vite. Le virus est toujours présent, les variants arrivent.
Mais il est présent, pardonnez-moi de vous couper, Anne. Il est présent et j'ai envie de dire, et alors ? Il peut être présent, c'est pas un drame qu'il soit présent s'il ne cause pas de décès ou s'il n'envoie pas tout le monde en réa.
Et on est bien d'accord, il n'envoie peut-être pas tout le monde en réa parce qu'on est d'accord aujourd'hui que c'est une forme de grippe, d'accord, et qui ne tue pas. Mais ça peut encore tuer les personnes fragiles et on ne va pas enfermer les personnes fragiles parce que maintenant tout le monde, on lève tous les gestes barrières. Et j'ai vu cet été, et je vous l'avais dit, j'ai vu cet été comment les gens ne respectaient plus aucun geste barrière entre le masque, le lavage des mains. Et c'est pour ça aussi qu'on se recontamine aussi vite. Donc je pense qu'on va trop vite. On fait tout là d'un coup. On enchaîne tout, on rouvre tout, on enlève les jauges. Les gens vont
Moi, je trouve pas qu'on va trop vite parce qu'on attend encore le 2 février. Mais Robert Sebag vous répond puisque vous êtes infirmière et donc vous êtes, je comprends, sensibilisé à ce sujet. Robert Sebag.
Oui, bonjour. Bonjour madame. Effectivement, bonjour. Depuis 2 ans, on a vu les différentes vagues. Et je dois dire quand même que nous voyons quand même, et même à l'hôpital, des différences entre les différents variants, puisqu'il y en a eu malheureusement beaucoup. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'hôpital, mais pas simplement à Paris, hein, c'est un petit peu, j'ai beaucoup de confrères au téléphone, et c'est un peu une situation, même s'il y a des variations d'une région à l'autre. Effectivement, il n'y a pas d'explosion en réanimation. Tout ce que nous avons en réanimation, c'est plutôt du Delta, qui est en train de disparaître. Hein. Il est encore au taux de 8% dans notre pays, et c'est l'Omicron qui a pris le dessus. Et on sait, tant mieux, qu'il en voit très très peu de gens en réanimation. Il y en a quelques-uns, mais quand on regarde de près les personnes où on est certain que c'est de l'Omicron et qui sont en soins critiques, ce sont soit des personnes pas du tout vaccinées, soit des personnes vraiment immunodéprimées, où on sait que le vaccin, effectivement, ils ont une susceptibilité. Donc c'est principalement ce type de personnes, et c'est autour de 15%. Donc tout le reste, aujourd'hui, en réanimation, c'est du Delta. Ce que nous avons à l'hôpital conventionnel, alors effectivement, je le disais en introduction, nous sommes à 27 000 patients avec beaucoup à peu près 40% d'Omicron, qui ne font pas des formes graves, qui ne restent pas longtemps, qui restent 24 à 48 heures, qui ont besoin effectivement d'oxygène, il y a un traitement qui est donné. Il faut savoir aussi qu'on a un traitement antiviral qui arrive. Le Paxlovid, c'est un espoir important pour nous. Et on est ravis. Donc on a différents outils aujourd'hui qui commencent à montrer leur efficacité. Et puis vous savez, il y a un problème d'acceptabilité. Je pense que la population française en général n'est plus... Elle a été formidable pendant des années. Là, je crois que les gens n'en peuvent plus. Donc voilà.
Bon, Anne, est-ce que vous êtes convaincue ou pas ?
On pourra toujours essayer de faire marche arrière si vraiment il y avait un problème.
Anne, est-ce que vous êtes convaincue ?
Non, je ne suis toujours pas convaincue parce qu'on a toujours ce problème. On a toujours ces virus qui arrivent, qui sont au-dessus de notre tête. C'est une épée de Damoclès. Les Français, je sais que les Français, mais ce n'est pas que les Français. C'est dans
le virus, il vit.
On est lassé, effectivement, de toutes ces mesures. Je suis d'accord. On a envie de revivre, je dirais, normalement, même si on est entré quand même dans une certaine normalité avec ces gestes barrières. Mais j'ai envie de dire comment on va le prendre si demain ou à l'automne prochain arrive un variant très agressif.
On va pas handicaper le présent par un variant à l'automne prochain, parce qu'on n'en sort pas.
Et les gens le vivront encore.
Mais vous croyez pas que les gens vivent mal d'avoir des enfants de 6 ans qui ont un masque pour aller à l'école? Je veux dire, il y a un moment quand même.
C'est pas le masque qui gêne le plus pour les enfants.
Parlez-leur aux enfants.
C'est plutôt, c'est plutôt de les tester, de leur faire des tests avant de les emmener à l'école en permanence. Ça, c'est fatigant pour les parents aujourd'hui.
Bah, je pense que les enfants, ils sont traumatisés, si vous me permettez. Je vois un peu ce qui se passe, c'est que des enfants de 6 ans, d'abord ici, j'ai entendu les mamans louves, d'ailleurs, qui défendent effectivement cette position de lever le masque pour les enfants. Il y a vraiment aujourd'hui des conséquences qui peuvent être très importantes, très graves pour ces enfants qui grandissent avec un bandeau sur le visage. Merci en tout cas, Anne.
Merci beaucoup. Merci, je vous remercie beaucoup, Pascal.
Et bon week-end dans l'Aveyron, qui est une très belle région, évidemment, l'Aveyron. Il y a beaucoup d'Aveyronnais à Paris, vous savez, Anne.
Ah mais je le sais, on en parle tout le temps, surtout autour de chez moi, les Aveyronnais de Paris, il y en a énormément.
Il y a une colonie. Merci beaucoup Anne. Il est 13h18, j'aperçois Monsieur Boubouk qui est là et c'est toujours un moment important.
Oui.
Parce que le vendredi, et pour lui, je le dis à Robert Sebac, qui ne nous écoute pas peut-être tous les week-ends, mais il y a un problème effectivement affectif chez Monsieur Boubouk. Qui, le week-end, ne concrétise pas l'ambition qu'il met dans la semaine.
Je ne trouve pas l'amour le week-end, mais voilà. on va y arriver.
Donc on est un peu inquiet, évidemment, pour lui. On est inquiet le vendredi, on l'interroge le lundi. Oui. Et là, peut-être nous donnera-t-il des pistes
de
ce qu'il va...
Je vois que Robert Sebag est très sensible à ma cause.
Mais bien sûr, il est médecin, médecin de l'âme aussi. Donc vous allez nous dire ce que vous avez prévu ce week-end, cher
bien
camarade.
Bien sûr.
Merci, 13h18.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro
et Laurent Tessier.
Le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier soir la levée progressive des restrictions, fin de l'obligation des 3 jours de télétravail à partir du 2 février. Il reste toutefois recommandé. La mesure est donc prolongée. Je vous rappelle ce qu'avait annoncé Jean Castex le 27 décembre.
À compter de la rentrée et pour une durée de 3 semaines, le recours au télétravail sera rendu obligatoire, je dis bien obligatoire.
Certains espéraient que cette obligation s'arrête donc lundi prochain. Alors, cette prolongation du télétravail, bonne ou mauvaise nouvelle? Benoît Serre, le vice-président de l'Association nationale des DRH, était l'invité d'Yves Calvi ce matin sur RTL.
Bon, très honnêtement, le nouveau protocole du mois de janvier n'a pas perturbé considérablement les entreprises qui étaient déjà en télétravail depuis presque 2 ans. Donc cette prolongation, si elle se termine, comme le gouvernement semble le dire, avec le fait que nous retrouvons notre liberté d'organisation du télétravail, alors c'est un mal pour un bien.
Le télétravail stop ou encore, Sophie de Menton, la présidente du mouvement éthique, sort avec nous dans 10 minutes. 3210, 3210.
Et pour le moment, c'est Sébastien qui est là, qui habite Lens. On reste donc dans le Nord. On était à Béthune tout à l'heure. Sébastien qui est gérant d'un bar dansant.
Tout à fait.
Bonjour Sébastien. Donc vous, les bars dansants, c'est comme les discothèques, c'est pas avant le 16 février.
Alors, justement, bon, la petite différence, c'est que nous, en tant que bar, on n'a pas le statut discothèque, donc on est resté ouvert, voilà, sans problème. Sauf qu'on ne pouvait plus faire danser les gens. Donc, qui dit ouvert dit aucune aide, mais par contre, on nous interdit de faire danser les gens. Donc, c'est encore un peu plus compliqué que mes collègues qui ont des discothèques et qui lui font des aides, même si j'imagine que c'est toujours très compliqué. Mais nous, on a le droit d'être ouvert. Mais on a le droit de faire danser les gens.
Mais alors, les gens qui étaient clients chez vous, ils venaient jadis, avant la fin des... avant les mesures plus exactement qui ont été prises, ils venaient pour danser ?
Ils venaient pour danser, boire un verre, etc. Donc, effectivement, essentiellement pour danser.
Sauf alors que, là, du coup, ils ne sont plus venus ?
Ils sont venus, évidemment. Ou en tout cas, beaucoup moins. Mmh. Puisque, voilà, plus le droit de danser, obligation d'être assis. On a un bar aussi qui est beaucoup en bar. C'est-à-dire qu'ils sont debout au bar, ça discute, etc. Là, les gens doivent être assis, donc ce qui veut dire plus au comptoir.
Donc c'est une baisse d'activité de combien ?
Depuis décembre, on est quasiment à 50%.
Ah oui, mais il y a quand même 50% des gens qui sont venus.
Oui, parce qu'on essaie de trouver d'autres astuces, notamment, voilà, on a fait des soirées karaoké où les gens chantaient assis. Voilà, on a trouvé des petites astuces, on essaye de, être imaginatif
C'est formidable.
C'est incroyable.
Oui. C'est-à-dire que le chanteur de karaoké n'avait pas le droit d'être debout?
Eh ben non, puisqu'il faut être assis, donc on les faisait chanter assis. Voilà.
Non, mais je veux dire, mais c'est vrai que. On est chez les fous, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est-à-dire et alors évidemment, vous avez respecté parce que vous avez peur d'avoir un contrôle.
Alors, on respecte au maximum. Alors, ce n'est pas toujours évident de dire aux gens, parce qu'on fait la police en fait, quasiment tous les jours, asseyez-vous, nanana, votre masque, etc. Donc, bon, les gens plus ou moins jouent le jeu, sont habitués. Et voilà.
Non, mais l'exemple du karaoké est extraordinaire. Mais c'est-à-dire que tu es voilà, obligé de chanter assis parce que si tu es debout, le virus est là. C'est ça, on est quand même dans une période qui est très particulière. Bon, alors 50%. Donc vous allez rouvrir à 100%, si j'ose dire, le 16 février, parce que le 16 février, vous aurez le droit.
On pourra revenir à une activité normale. Ouais. Par contre, effectivement, c'est prolongé. Hein. Tout le monde est heureux aujourd'hui, mais ça devait s'arrêter le 24. Bon, finalement, on a repris quand même 3 semaines. Hein. Bon,
mais bref. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'étais très surpris de la couleur ce matin des éditorialistes et de la presse. C'est-à-dire qu'hier soir, on nous a annoncé qu'on en reprenait pour 3 semaines, comme vous le dites.
Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Tout le monde est heureux, mais c'est pas une bonne nouvelle.
C'est le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que ton geôlier te libère et t'es content.
On est d'accord. Et en plus, dans le même temps, quand je vois des meetings politiques à 3000 personnes, parce que soi-disant c'est démocratique, bon, ça me fait un peu rire, parce que je peux vous assurer que la vraie démocratie, notamment cette période d'élection présidentielle, elle est dans les bistrots. Parce que là, dans les bistrots, chacun a son avis, chacun, il y a des débats, des vrais débats. Dans un meeting politique, je vois pas dans quoi c'est démocratique, parce que totalement.
Ce que vous dites est tellement évident. Qui pourrait contester ce que vous dites? Robert Sebag,
vous avez tellement raison, mais vous savez, c'est pas nous, on essaye de faire un certain nombre de recommandations qui tiennent la route, mais elles ne sont pas toujours acceptées. Et ce que vous dites sur les meetings politiques, vous avez mille fois raison.
Bon, qu'est-ce qu'on chante chez vous, Sébastien, comme chanson?
Alors nous, on est un parfait carnaval de Dunkerque, Russie. On est à peu près du Stade Bollard.
Quel est le tube numéro 1 dans votre bar qu'on pourrait passer pour vous faire plaisir?
Ça va être une chanson ski, hein, c'est compliqué.
Hein. Ça passe pas très bien là, Sébastien. On a des petits ratés, donc je vous laisse. Je vous souhaite un bon retour dans le bar dansant le 16 février. Et puis, merci beaucoup de votre témoignage. Nous sommes avec Suzanne. Bonjour Suzanne.
Bonjour Monsieur Pro. Oui, moi j'appelle parce que tout le monde dit les jeunes, mais vous avez les anciens qui sont privés de thé dansant, d'aller dans une boîte qui s'appelle le Chalet du Lac à Vincennes, et nous on est privés vraiment de la danse comme les jeunes, parce que quand on était jeunes, on dansait. Et ben, on n'oublie pas, quand on est à la retraite ou même un petit peu avant, de retourner danser, quoi.
Vous alliez combien de fois par semaine danser, Suzanne?
Entre une et deux fois.
Ah oui, c'est beaucoup. Et vous y allez à quelle heure? C'est l'après-midi?
C'est l'après-midi, mais attention, de 14h à 20h, 20h30, 21h des fois, quand il y a encore du monde.
Et généralement, il y a combien de personnes?
Bah écoutez, on a eu une pointe à 400. Les pointes sont à 400. C'est où je vais, c'est le Chalet du Lac, et c'est une très belle, un très beau dancing.
Et qu'est-ce qu'on danse?
De tout.
Mais par exemple, qu'est-ce que vous aimez bien danser?
Moi, j'adore le tango.
Le tango, on va vous trouver un petit tango, Suzanne.
C'est génial, mais
et donc depuis le 8 décembre, vous n'avez pas dansé le tango?
Eh bien non, puisque même les guinguettes n'ont pas le droit de faire danser. Les mairies ne font plus l'été dansant parce que c'est interdit. Donc on peut plus danser.
Et vous avez fait des petites soirées privées?
Non. Non, moi je suis un peu isolée, donc j'aurais bien aimé.
Non, mais ce que vous dites, c'est vraiment très intéressant. C'est que vous allez souvent seul, j'imagine, dans cet été dansant. Et c'est une manière de créer un lien social, de retrouver des amis, pourquoi pas d'en rencontrer de nouveaux.
Oui, puis vous faites, c'est des amis éphémères, c'est-à-dire qu'on se connaît dans ces lieux-là, mais c'est rare qu'on se fréquente. Moi, je fréquente une amie, j'ai une amie que je fréquente depuis 2 ans, mais sinon, c'est très rare. C'est vraiment une chose à part dans notre vie, vous voyez.
Suzanne, regardez, on va danser ensemble virtuellement. C'est génial, en fait, le tango. Mais il n'y a plus de jeunes qui dansent le tango. C'est vraiment une danse un peu ancienne, Suzanne.
Il y en a quelques-uns qui dansent.
Ouais, mais si c'est vrai que dans les boîtes de nuit, c'est...
Nous dansons le rock.
Oui.
Les danses modernes, les danses qui sortent, je ne sais plus les noms. Parce
la valse, le passo-doble.
Oui, ça, c'est ancien.
Mais je ne sais pas si vous étiez un danseur de tango, Robert Sebag, mais j'avoue que je ne sais pas les pas du tango. Je ne suis pas un spécialiste.
C'est
m'apprendrez
quand le danseur s'accorde avec la danseuse, c'est super.
Bah écoutez, vraiment merci là encore de ce témoignage, vraiment Suzanne, mais on voit bien que les conséquences qui ne sont pas simplement évidemment sanitaires mais qui sont sociales, on comprend que Suzanne, deux fois par semaine, c'était un rendez-vous important, que ça lui permettait de, elle est retraitée Suzanne, de rencontrer des gens, on voit bien, et j'ai envie de dire, tout ça pourquoi on aurait laissé ces thés dansants ouverts l'après-midi, je pense pas qu'on
bien
aurait moins de contamination,
je veux dire, bon,
oui,
bien sûr.
Je vous remercie alors Robert Sebag d'être resté avec nous durant cette demi-heure. C'est toujours un plaisir. Vous êtes venu en vélo ?
À bicyclette, oui. Bah, l'hôpital, vous... c'est loin. Hein.
Bah, de la salpêtrière, oui. Mais vous n'avez pas froid ?
J'ai eu froid, là, oui.
Ah bah, oui, je reconnais, oui. Mais en même temps, mais puis c'est dangereux.
Non,
dans Paris.
Non, ça va. Bon. Attention.
Vraiment, merci beaucoup, Robert Sebag. Il est 13h29. On marque une pause. Vous allez pouvoir saluer Monsieur Facebook, si vous le souhaitez, dans la régie, lui remonter le moral. Vous qui êtes un médecin de l'âme aussi.
Et puis peut-être me prescrire quelque chose, hein, Pascal, pour ma maladie d'amour.
Je sais
d'amour.
Ce qu'il faudrait vous prescrire, mais bon, est-ce convenable ? 13h29, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier.
Une question dans quelques minutes. Êtes-vous royaliste ? Ah, il se peut surprendre. Le 21 janvier 1793, Louis XVI était exécuté, guillotiné à Paris, place de la Révolution. Et oui, le tribunal révolutionnaire avait voté la condamnation à mort du citoyen Louis Capet.
À mort, Louis Croivet Bâton. À mort, Louis Croivet Bâton.
Les inconnus. Alors, le retour d'un roi en France, vous l'imaginez, est-ce réellement possible? Selon un sondage BVA qui date de 2016, 17% des Français seraient favorables à ce que la fonction de chef de l'État soit occupée par un roi. Là aussi, ça surprend. Alors, si c'est le cas, appelez-nous 3210-3210.
Et puis, sur ce plateau, dans ce studio, une reine de l'entreprise est avec nous, Madame de Menton. Ah, mais d'ailleurs, il y a une particule devant votre nom patronymique.
Oui, oui, oui.
Donc, on peut imaginer que un ancien temps, vous apparteniez à l'aristocratie.
C'était amusant parce qu'il y a encore 30 ou 40 ans, les aristos s'habillaient en noir pour porter le deuil le jour de la mort du roi, c'est-à-dire aujourd'hui.
Non. C'est... Donc vous habillez vous-même en
noir ? Non, moi c'est par alliance. Je suis une bonne bourgeoise alliée à un aristocrate.
Bon, vous allez pouvoir intervenir parce que vous n'êtes pas forcément contente des mesures qui ont été prises hier, en tout cas des annonces qui ont été faites hier.
Je suis lasse. Comme les Français, je pense.
Mais on va parler d'abord avec Alice, si vous voulez bien. Sophie de Menton, et chacun vous connaît parce que vous êtes une des chefs d'entreprise les plus célèbres de France. Une figure, comme on dit. Alice, bonjour, qui habite Clamart, qui est restauratrice.
Bonjour.
Alice, les annonces d'hier ne vous ont pas satisfaite ?
Non. Non, non. Tous les restaurateurs... Alors, je suis restauratrice depuis 20 ans à La Défense. J'avais déjà eu l'occasion de passer à
Ah oui, je me souviens, effectivement. Mais pour vous, c'est un drame avec le télétravail. On avait échangé de cela, puisque, effectivement, votre restaurant, c'est le midi et ce sont des salariés.
Exactement. Et donc, nous, depuis le mois de décembre, c'est la cata. On a des restaurants vides. On a même des amis, des restaurateurs sur La Défense qui jouent à la pétanque pendant le service. Et là, moi, je suis partie du restaurant parce que c'est désespérant. J'avais pas 20 couverts. Alors que j'en ai 350 places assises.
Quand vous dites que vous êtes parti, c'est-à-dire que vous êtes parti aujourd'hui du restaurant ou vous avez quitté le restaurant ?
J'ai quitté le restaurant là tout de suite pour aller faire autre chose, pour voir, pour m'aérer et pour discuter avec vous.
D'accord, c'est votre restaurant, nous sommes d'accord.
Oui, oui.
Bon, donc, il y a 20 personnes simplement alors que d'habitude il y en a 350.
C'est ça.
Bon, et là, vous, donc, par définition, vous ne recevez pas d'aide puisque le restaurant est ouvert.
Le restaurant est ouvert, on va recevoir quelques aides, on a le droit au chômage partiel. Donc j'ai mis quasiment tout mon personnel en chômage partiel.
Ah donc on peut être ouvert et recevoir des aides.
On est en train de travailler dessus. Mercredi, on va manifester au pied de la Grande Arche. Tous les restaurateurs de La Défense vont manifester leur désarroi, on est à bout de souffle là.
Mais non, mais ce ne sont que des cas particuliers. Et c'est vrai que s'il y a télétravail et que vous êtes dans une restauration qui ne s'adresse qu'aux professionnels et que ces professionnels ne sont pas là, évidemment, les temps sont difficiles. Bon, Sophie de Menton, voilà. Vous êtes au contact des entreprises et de l'économie de ce pays. Hier soir, vous auriez aimé sans doute que tout soit levé.
Je ne sais plus. Je ne sais franchement plus. Parce qu'on nous raconte
c'est dommage,
tout et son contraire.
Vous êtes venu pour...
non, mais je vais vous dire ce que je sais.
Oui.
Mais je ne sais plus ce qu'il faut penser. Et d'ailleurs, ceux qui prétendent savoir ont tort. En l'occurrence, on nous... là, aujourd'hui, depuis deux jours, ou en tout cas, c'est incessant, on a un pass vaccinal. Soit. On aurait dû l'avoir il y a six mois. On a un pass vaccinal, mais on nous dit ça y est, sérieux, ça va être traité comme un rhume maintenant. Donc, c'est le pass vaccinal, on a six mois de retard. Il faut traiter les choses. Alors, on nous prévient, ça c'est un scandale, et ça fera partie peut-être du deuxième objet de mon intervention. On est prévenu en regardant la télé. Les chefs d'entreprise sont prévenus en regardant la télé. C'est-à-dire, pour gérer une boîte, maintenant, il faut regarder la télé le soir et savoir ce que va dire un Premier ministre ou un ministre. Non,
ça, c'est pas gênant, parce que par définition,
si,
les annonces, il ne va pas prendre son téléphone, Jean Castex, pour appeler Sophie de Menton et lui donner les instructions.
Ben, vous venez de lui donner une bonne idée, parce que hier, j'étais avec Geoffroy Roux-de-Bézieux, président du MEDEF. Le MEDEF ne sait rien. Il sait exactement en même temps que vous combien de personnes il faudra mettre en télétravail obligatoire le lendemain. C'est juste pas possible. Donc c'est un mauvais management.
Vous n'êtes pas associé aux discussions qui ont lieu.
Jamais. Et ce qui est plus grave, c'est qu'il y a une campagne électorale et que les candidats ne nous demandent pas nos propositions. Or, le dysfonctionnement français, il est là, il est dans le terre-à-terre, il n'est pas dans les grandes annonces. On va baisser les charges, on va remonter les impôts.
Mais les entreprises aujourd'hui, par exemple, dans l'entreprise, vous pensez que chacun doit porter son masque aujourd'hui ?
D'abord, on va obéir, parce que je pense que les gestes, la distanciation et la prudence et la responsabilité individuelle, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc évidemment, on va le faire. Maintenant, nous tous les deux, nous ne portons pas de masque, on va le porter tout de suite en sortant de la pièce. Il y a une adaptation intelligente à faire, ça dépend du volume d'air, on aère énormément les pièces, on met des plexiglas devant les... Dans certains studios, il y en a d'ailleurs. On met des plexis. On a fait mieux que l'État, beaucoup mieux que les administrations. On sait quoi faire et je vous garantis qu'un chef d'entreprise et tous ceux qui nous écoutent et les salariés qui nous écoutent le savent, mais personne ne veut moins que ne pas avoir de contamination et ne pas avoir de Covid dans la boîte. C'est une catastrophe.
J'entends bien, mais j'ai du mal à savoir exactement ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. C'est quoi le message ?
Le message, c'est que il y a des comités scientifiques qui se contredisent,
oui,
des politiques qui se contredisent.
Oui. Et donc, c'est quoi votre message ?
Donc, je voudrais alors une plus grande liberté envers les entreprises avec un état des lieux, en disant écoutez, voilà, c'est un peu en train de diminuer. C'est vrai qu'il n'y a pas du tout d'urgence en réanimation. Il y a beaucoup moins d'hospitalisation.
Mais j'arrive.
Mon message, ce serait que l'État me dise, nous appelons les chefs d'entreprise à faire particulièrement attention, à observer si possible tel type, à mettre quand ils le peuvent en télétravail ou à adapter le travail. Non, 1000 balles de contravention quand vous avez un salarié qui n'est pas en télétravail et qui aurait dû l'être.
Sophie Menton est avec nous.
Mais il y a eu des soldes.
La pause.
On est à 500.
La pause. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il y a ceux qui nous écoutent et il y a ceux qui nous regardent sur Internet. Et tous les auditeurs qui passent à l'antenne dans notre émission recevront ce magnifique triple, quadruple, quintuple même CD. 50 ans de chansons françaises. Ça va de Georges Moustaki, Les Eaux de Mars, à Corneille, parce qu'on vient de loin. Il y a Isabelle Adjani, Pulmarine, Marine, Jean Ferrat, Aimé à perdre la raison. Je ne vais pas vous donner les 50 chansons. Chanson, Mort Schumann, c'est formidable. Eddie Mitchell, Patricia Cass, j'ai le droit de le donner à Sophie de Menton, Laurent Tessier.
Parce que Sophie intervient.
Même si j'ai bien répondu.
Et ah oui, voilà, je le garde. Si vous répondez bien, vous aurez 50 ans de chansons françaises qui sera donné à tous les auditeurs.
Formidable. Une autre question tout à l'heure dans l'émission.
Quand on est con, on est con.
Sommes-nous de plus en plus cons ? Oui, vous avez bien entendu la question. C'est l'enquête cette semaine du magazine Society. Vous vous souvenez forcément des tontons flingueurs.
Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Et le dîner de cons, mémorable.
Il s'appelle juste Leblanc.
Ah bon, il n'a pas de prénom.
Je viens de vous le dire. Leblanc, c'est son nom et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste ?
Oui.
Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste.
Mais c'est quoi être con ? Théo Denmat, qui a signé cette enquête pour Society, était l'invité de RTL Midi.
Un con, c'est quoi ? Ce qui est fantastique avec le con, c'est qu'il n'y a pas de con étalon. Il n'y a aucune personne sur Terre qui est considérée comme un con par l'ensemble de toutes les autres. Subjectivement, un con, c'est quelqu'un qui est moins bien que soi. Sommes-nous de plus en plus cons ? Probablement que non. Est-ce qu'on les voit plus, en revanche? Ça, c'est une certitude.
Bon, on est toujours le compte quelqu'un, paraît-il. Donc venez nous donner votre avis au 3210.
Sophie de Menton disait, il y a des gens très intelligents qui sont cons. Vous avez un exemple en tête?
Je ne citerai pas.
Ah bon?
Bien sûr que j'ai des exemples.
C'est quelqu'un de connu?
Il y en a beaucoup de connus. Vous avez des politiciens, des énarques qui ont une culture folle.
Et ils sont
qui
cons.
Sont... Oui, c'est-à-dire que la connerie, c'est de mal appréhender le bon sens, la réalité du quotidien, mal juger, avoir une réponse disproportionnée par rapport à un problème. Donc oui, il y a des gens très intelligents qui sont cons.
Alors, je vais vous reposer la question tout à l'heure parce que j'ai deviné durant l'intermède ce que vous souhaitiez, en fait, que vous n'osiez pas vraiment dire. Parce qu'effectivement, c'est peut-être un peu délicat de dire, mais en fait, vous voulez se le mettre à bord dans vos entreprises et vous voulez faire ce que vous voulez. Alors, on pourra en parler dans une seconde, mais Fabien est là pour le moment, qui est chef d'entreprise également. Bonjour Fabien.
Bonjour Pascal.
Et les mesures donc que vous avez écoutées hier, est-ce qu'elles vous satisfont ?
C'est un scandale ce qui se passe, c'est un scandale. Alors juste pour revenir, je voudrais dire deux mots par rapport à l'auditrice de tout à l'heure. Sur la restauration en France, il n'y a pas que la restauration, il y a d'autres métiers, hein, déjà remettre dans le contexte. Et je voudrais intervenir au niveau des restaurants. C'est très bien qu'ils manifestent mercredi les grands temps, à force d'avoir tout accepté, tout pour des aides, à leur faire croire qu'ils vont réouvrir, bah, il est grand temps d'ouvrir les yeux et de réagir. Moi aujourd'hui, ces mesures, c'est une catastrophe, on a repris... Début janvier, c'est des arrêts de travail à qui me mieux, pour un rhume, et on continue. J'ai perdu 2 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, on s'en fiche, voilà, c'est pas grave, mais on m'a aidé, hein. Ah, on m'a aidé à faire un prêt d'État, voilà.
Sophie de Menton qui vous écoute.
Oui, je vous comprends, je suis très mitigée, parce que c'est un peu difficile, jamais un État... Je crois dans le monde, n'a autant aidé les entreprises, il faut quand même le dire. Alors, que ce soit accompagné de mesures qui ont été souvent inutiles, qu'on ait voulu gérer nos boîtes à notre place, qu'on ne nous ait pas fait confiance, ça c'est une réalité. Et effectivement, je crois qu'ils ne prennent pas...
Quelle aide, madame ?
Oui ?
Quelle aide on a eue ?
Ah ben vous avez eu des aides financières, vous avez le chômage partiel, vous avez...
Ah d'accord, mais quand vous arrêtez votre entreprise, madame, heureusement que j'avais une grosse trésorerie, on m'a arrêté.
Ah mais vous avez raison, oui c'est l'État comment qui a arrêté, c'est normal qu'il paie, c'est vrai.
Ah mais c'est pas ce que je dis, mais attendez, on a des loyers, il y a des parcs auto, c'est pas arrêté, il faut bien payer ça.
Vous êtes dans quelle activité Fabien ?
Dans le bâtiment.
Donc vous êtes chef d'entreprise, vous avez combien de personnes qui travaillent avec vous ?
48 personnes.
Donc c'est une belle boîte déjà.
Oui. Bon.
Et aujourd'hui, fait, mais... elle est à l'arrêt, cette...
Ah non, on continue, mais on vit avec des arrêts de travail. Vous vous rendez compte qu'on a des cas contacts tous les 2 minutes.
Donc là, vous avez par exemple 48 personnes aujourd'hui. Est-ce que vous savez combien de personnes sont dans l'entreprise ?
Je pense entre 38 et 40.
Bon, alors, et d'habitude ?
Et d'habitude, on est toujours en plein effectif à 48 personnes.
Alors, pardonnez-moi juste une seconde, je devrais jamais dire ça, mais les cas contacts, plus personne les respecte. Je veux dire, on est tous... Bah non, mais excusez-moi,
mais madame,
c'est la réalité.
Non, Sophie de Menton, faites attention.
Non, mais je veux
bien
que
vous disiez ça. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez...
Je dis... Attendez, je finis juste là. Je dis que... Plus personne, c'est pas uniquement dans l'entreprise. Le cas contact, vous êtes tous cas contact de quelqu'un. Vous êtes cas contact, Pascal Praud, je suis sûr aujourd'hui.
Vous prêchez un convaincu, madame.
Pardon ?
Mais aujourd'hui, quand vous prêchez un convaincu. Mais regardez, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, ils vont passer un week-end. Voilà, ils vont faire la fête. Le lundi matin, c'est très facile, hein, je vous le dis. Voilà, j'appelle. Ah bah, je suis désolé, je suis cas contact, j'ai vu
absolument
ce week-end. Donc je vais aller me faire tester. Voilà, point. Faut arrêter. Et ça coûte des milliards. Attendez,
oui,
on est en train
moi,
je suis pas vacciné, et on est en train de nous faire culpabiliser au quotidien. Ça fait un an et demi tout ça. On essaye de nous expliquer dans notre société d'aujourd'hui qu'il faut avoir des respects pour la sexualité, pour le racisme. Mais qu'est-ce qu'on fait de nous là ?
Non mais Fabien,
et on est à bout. On est à bout. On en a marre. Alors on vit. Ceux qui ont peur, eh ben ils restent chez eux. Hein, ceux qui ont fait mai 68, parce que c'est, on protège encore. Et il y en a ras-le-bol des boomers. Il y en a ras-le-bol. On aurait mis aujourd'hui un chef d'entreprise à gérer cette crise. On l'aurait mieux géré. Ces gens qui sont là-haut, ils n'ont jamais créé un emploi. Alors il y en a là.
J'entends votre colère, Fabien, et
il y en a beaucoup, hein.
Mais je pense qu'effectivement. Mais est-ce que ça va se traduire politiquement, par exemple, Fabien ? Est-ce que vous allez vous détourner, en l'occurrence, d'Emmanuel Macron ?
Je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron. J'ai voté blanc parce que on n'avait pas la solution. Et je pense que les journalistes oublient ça. Et c'est très dangereux pour eux. D'habitude, il y a beaucoup d'abstention. Mais cette année, je peux vous le dire, les gens vont aller voter. Et je pense qu'il va y avoir des grosses surprises, je vous le dis.
C'est-à-dire, c'est quoi la grosse surprise selon vous ?
moi personnellement, je dirais pas pour qui je vote, mais je peux vous dire que Zemmour, au quotidien sur le terrain, on en entend. Voilà. Et les gens ne veulent pas voter pour lui, ils vont faire un vote sanction. Et vous vous rendez compte qu'on a été insulté parce qu'on n'était pas vacciné, alors que je respecte la loi, je paye mes impôts.
Ah oui, en plus vous n'êtes pas vacciné.
Mais vous me vaccinez pourquoi ? Quand on sait qu'on le transmet, moi j'ai 38 ans, je suis en pleine forme, je ne peux pas aller de faire de cas graves. Alors qu'ils arrêtent avec leurs cas graves. Les cas graves, c'est sur les personnes âgées, ceux qui ont des comorbidités. Quand j'entends des journalistes qui font des leçons de morale à un tennisman, alors que ce monsieur fait 90 kilos, il faut remettre les choses dans le contexte. Hein.
Fabien, c'est un discours.
Sujet, là.
Non, mais c'est un discours que je peux entendre. Et moi, j'ai pas envie de donner des leçons de morale à Fabien, qui a 38 ans et qui, effectivement, statistiquement, vous êtes en dehors des possibilités de faire un cas grave. C'est entendu. Alors, lorsque, au mois de juillet dernier, on nous a expliqué, ça pouvait s'entendre, que tu te faisais vacciner pour les autres, parce que au moins, tu n'allais pas transmettre la maladie.
Sûr,
c'était un argument que tu pouvais entendre. Manifestement, d'ailleurs, vous ne l'avez pas entendu, vous, puisque vous ne vous êtes pas fait vacciner. Mais à partir du moment où il y a 500 000 contaminations par jour, cet argument tombe de lui-même. Donc merci Fabien. Moi j'entends ce que vous dites.
Un petit mot, juste rappelez-vous, au mois de juillet, M. Pro, et j'insiste là-dessus, les enfants n'en parlent pas. Moi je vais en parler. N'oubliez pas qu'on a fait culpabiliser les enfants pour leur dire de protéger leurs papiers qu'ils allaient faire mourir.
Mais j'entends ce que vous dites.
Mais on nous prend pour des imbéciles.
Non, c'est pas ça. Je vais vous dire, je pense que c'est des systèmes. Il y a une phrase très forte que vous avez dit, les chefs d'entreprise sont habitués à la prise de risque, et vous avez dit si un chef d'entreprise dirigeait cette période, on s'en sortirait sans doute mieux. Oui. Je ne suis pas loin de penser comme vous. Parce qu'effectivement, dans les cerveaux des chefs d'entreprise, il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans le cerveau de quelqu'un qui est sorti de l'ENA, c'est la prise de risque. Voilà. Ouais. C'est vrai. Mais il faut trouver le juste milieu. Merci en tout cas, Fabien.
Merci, M. Pro, en tout cas, d'avoir ouvert. Vous êtes un des seuls, parce qu'on jure, vous êtes un des seuls. Et on vous remercie beaucoup, en tout cas, de ce que vous faites et de laisser la parole libre. Voilà.
J'essaye d'écouter. J'essaye de ne pas donner de leçons de morale, parce que je trouve qu'effectivement, il y a parfois, dans l'espace médiatique, un côté prêchi-prêcha. Et j'avais utilisé l'expression carte de prêche, parfois, qui peut m'agacer. que j'entends dans l'espace médiatique parfois de certains confrères, pas RTL bien évidemment, mais je peux entendre cela de temps en temps, donc ça m'agace, et les journalistes ne sont pas là pour ça, pour donner la leçon et faire la morale. Merci en tout cas Fabien. Merci Fabien. Alors Monsieur Boubouk,
Pascal, je suis ici.
Monsieur Boubouk, c'est le grand moment.
Le moment
je vois
moment.
Dans ma boule cette semaine une rencontre.
Vous me faites de plus en plus peur, Pascal, pour être très honnête.
Je vois l'amour, mon chéri, qui va arriver ce week-end.
Vous pensez que je vais y arriver ce week-end?
Je pense que ce soir ou demain, il y aura une rencontre, oui.
Oui, demain?
Je pense que l'amour va vous frapper.
Écoutez, Pascal, je vous en parle juste après la pub, non? On fait ça?
Si vous le souhaitez, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Olivier, monsieur Boubouk, parce qu'il s'occupe de la page Facebook.
On y va sur notre page Facebook. Pour Anne, les Français se contentent de récupérer... Exactement, Anne. Les Français se contentent de récupérer des libertés qui leur appartiennent pourtant. Et ça, ils l'ont oublié. Franck, à l'inverse, nous écrit le retour des boîtes de nuit m'inquiète beaucoup. Et on conclut avec Pierre. On oublie que pendant que certains retrouvent la vie normale, pour ceux qui n'ont pas de passe vaccinal, l'enfer commence.
L'enfer. Qui est pavé de bonnes intentions, comme vous le savez.
Exactement.
Cher Olivier.
Je suis ici, oui.
Que va-t-il se passer ce week-end?
Écoutez, ce week-end, Pascal, demain précisément, c'est mon anniversaire.
Non.
Mais si, j'ai 23 ans demain, vous me connaissez bien.
Oui, mais c'est le 22 janvier.
Exactement,
22,
Pascal.
Là, Olivier.
Oui. Formidable. Et donc, pour fêter ça, nous allons à Bruxelles avec mes amis. Mais nous avons oublié de regarder le protocole sanitaire en Belgique et à Bruxelles et... tout ferme à 23h, donc je sais pas trop ce qu'on va faire.
Faut mieux rester à Paris. Et vous avez combien d'amis?
On y va à 3.
3.
À 3 précisément.
Donc vous êtes
Pascal.
Avec deux amis?
Oui, c'est le principe. Oui,
et c'est deux garçons?
C'est deux garçons, oui. Mes deux meilleurs amis.
Bien sûr, mais vous êtes plutôt enclin à chercher l'amour dans le sexe opposé.
Mais exactement, Pascal, c'est pour ça que je vais à Bruxelles. Ça ne marche pas sur le territoire national.
Donc, je me dis qu'à l'international,
je vais
externaliser l'amour.
Exactement.
Ça, c'est formidable.
Je vais hors de l'hexagone pour trouver...
Et vous, partez par le chemin de fer?
Oui, Pascal, on va aller voir le Mackin Peace, tout ça. On va aller à Bruxelles, quoi. Oui, oui, exactement.
Eh bien, écoutez, d'abord, vous dites Bruxelles et pas Bruxelles. Donc, oui. Je vous félicite.
Merci parce beaucoup. C'est comme Ibiza, Ibiza. J'essaie de m'améliorer.
Exactement. On dit Auxerre, Bruxelles et pas Bruxelles.
Vous êtes content pour moi, quand même, ou...
ben, je suis content. Ben, j'attends votre retour.
Oh, je vais revenir avec une bruxelloise, c'est sûr.
Vous allez revenir avec une bruxelloise.
Je pense, je le sens.
Eh bien, écoutez...
je suis mesmer.
Comment ?
Je suis mesmer, je le sens.
Vous êtes mesmer. Non pas Pierre Messmer, bien sûr, qui était un ministre, le premier d'ailleurs, ministre, en 1973. Bon, cher Jean-Alphonse Richard.
Mon cher Pascal.
L'heure du crime à 14h30.
L'heure du crime à 14h30. Si je vous dis la fureur de vivre.
James Dean.
Pas tout à fait, mais enfin, West Side Story.
C'est...
La fièvre dans le sang.
La fièvre dans le sang.
Nathalie Wood.
Oui.
Ah, Nathalie Wood, voilà, Nathalie bien sûr. Wood, mais Nathalie Wood qui a été tuée par Richard Wagner, non ?
Non.
Ah, c'est une. Alors, c'est... voilà, vous avez mis en pile dans la cible, si je puis dire. Nathalie Wood, elle est morte, c'est une noyade.
Oui.
Le 29 novembre 1981, au large de la Californie. C'est une noyade, au début, accidentelle. Pendant 30 ans, ça va rester une noyade accidentelle. Et puis, le dossier va être rouvert. Et effectivement, aujourd'hui, son mari. Qui s'appelle Robert Wagner. Qui
est J'ai dit Richard, mais c'est Robert qui était un acteur.
Richard, c'est un autre.
Voilà, exact. Richard Wagner, c'est
un... Il a fait un peu de musique.
C'est pas la même musique. Robert Wagner, acteur très connu en France.
Bien sûr,
pour
très beau.
Du risque.
Voilà, bien sûr.
La série télé, etc., avec Stephanie Powers. Eh bien, lui, il va être suspect numéro un. Il l'est toujours aujourd'hui, hein. Il a plus de 90 ans. Il n'a jamais voulu répondre aux policiers qui ne peuvent pas l'interroger parce qu'il n'est pas suspect, il est témoin numéro un. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Tout va contre lui. Il a sans doute, peut-être, poussé son épouse dans l'eau un soir d'une soirée un peu alcoolisée.
Et quel mobile ?
Une dispute. Ça allait très mal dans le couple, une dispute. Les témoins qui ont apparu au fil de l'enquête disent tous la même chose, c'est un couple qui...
Ils étaient tous les deux sur le bateau.
Un petit peu hystérique, ils étaient plus que deux, ils étaient quatre.
Donc il y a des témoins.
Il y a également l'autre acteur qui est sur le bateau qui s'appelle Christopher Walken, qui est très connu.
Bien sûr, Christopher Walken.
Et puis le capitaine du bateau, le capitaine lui va tout raconter, il va parler de la dispute, etc. Mais tardivement, son témoignage est reconnu. Christopher Walken, lui, ne dira absolument rien et il n'a jamais rien dit.
Mais il n'y a pas de témoin oculaire.
Non. Il y a quatre personnes sur le bateau, mais personne dit avoir vu tomber Nathalie Wood à l'eau. On va la retrouver.
Ça, c'est une histoire passionnante.
Effectivement, 2 kilomètres plus loin, elle ne sait pas nager en plus. Donc, elle est tombée à l'eau et elle a été emportée par le courant. C'est une histoire passionnante.
Vous savez que c'est la Sainte Agnès aujourd'hui.
C'est le prénom de ma fille.
Eh bien, écoutez, Agnès Bonfillon est avec nous.
Et
nous
voilà,
lui avons souhaité tout à l'heure.
C'est
Agnès,
gentil.
Et elle revient en... pour le flash de 14h. À tout de suite.
À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il est 14h. Le flash avec Agnès Bonfillon.
Les discussions entre Blinken et Lavrov à Genève ont été franches et substantielles sur la crise ukrainienne. C'est le chef de la diplomatie américaine qui le dit. Blinken qui dit également avoir demandé à Lavrov des preuves que la Russie ne veut pas envahir l'Ukraine. Rendez-vous la semaine prochaine entre les deux hommes pour un autre face-à-face. Les Russes attendent notamment une réponse concernant le retrait des troupes de l'OTAN de la Roumanie et de la Bulgarie. Bucarest fait savoir à l'instant qu'elle trouve cette demande inacceptable. Opération Retrouvailles ce matin pour Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez, la candidate à la présidentielle et le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont affiché leur unité en Haute-Loire. Le message est très clair, ils sont sur la même longueur d'onde.
C'est important de faire ce déplacement en compagnie d'un grand président de région, Laurent Wauquiez.
Valérie a fait un début de campagne qui était très important, qui consistait à tourner les pages du passé. Et je serai totalement engagé à ses côtés dans cette campagne, parce que c'est la seule chose qui m'intéresse.
La troisième information, c'est du ski. Le Norvégien Kild remporte la première des deux descentes de Kitzbühel devant le vétéran français Johan Claret. 41 ans, s'il vous plaît, qui bat son propre record du plus vieux skieur sur un podium de Coupe du Monde et qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Trop fort, Yo Claret. On n'oublie pas la troisième marche du podium pour un Français également, Blaise Kiesendanner. Kiesendanner, je suis en train de massacrer son nom, le pauvre.
Comment s'appelle-t-il ?
Blaise Kiesendanner. Mais je peux le répéter. La météo, demain. Forte gelée en matinée suivie d'un temps ensoleillé pour la moitié sud du pays, quand la moitié nord, elle, devra faire face à des brouillards givrants, souvent tenaces, qui ne laisseront que peu de chances d'éclaircies. Il fera très frais demain matin au lever du jour, moins 7 à Aurillac, moins 6 à Auch, moins 5 à Annecy, moins 2 à Orléans, au Mans également, et un petit degré à Paris et Marseille.
Eh bien, merci beaucoup.
Ah, vous voulez pas les courses?
Ah ben, bah, c'est vous, la chef.
Je regardais si vous me suiviez. Les courses à Cagnes-sur-Mer, l'arrivée du Quintet, la voilà.
Ah oui, je croyais que vous parliez des courses.
Il fallait jouer le
Quintet.
Exactement, le 3, le 16, le 15, le 6 et le 4. Le 3, le 16, le 15, le 6 et le 4. Vous savez tout.
Merci beaucoup, chère Agnès, et bonne fête encore.
Merci.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Pierre et Sophie de Menton, mais on va aller au bout, finalement, de votre explication, de votre analyse, de votre souhait en tout cas. Ce que vous souhaitez, c'est être seul maître à bord, les chefs d'entreprise. C'est-à-dire que vous regrettez qu'on ne vous fasse pas confiance et que vous ne preniez pas, en concertation évidemment avec les salariés de l'entreprise, les mesures qui conviendraient à l'entreprise. Une sorte de cas par cas, de sur-mesure, c'est bien ça?
Oui, mais c'est bien plus que ça, Pascal Pro.
Bah, c'est déjà beaucoup.
Oui, c'est déjà beaucoup. C'est l'ignorance complète dans laquelle le politique tient le pays. L'ignorance que c'est l'entreprise qui a tout fait, qui a sauvé, qui a assuré, qui a vacciné, qui a testé. Si on prend des rendez-vous, c'est grâce au Doctolib. Une boîte privée. C'est grâce à Vitmadose, les vaccins. C'est grâce à Juste à Temps qui a installé des centres de dépistage partout, alors que les municipalités n'y arrivaient pas. C'est eux qui vont dans les écoles pour aider. C'est l'entreprise qui sait faire. Elle sait faire et elle sait manager. Et dans cette campagne électorale, c'est très important de le dire, il n'y a pas un candidat qui parle d'entreprise, qui parle des vrais problèmes de tous les jours, il parle de simplification pour se débarrasser du sujet. Ils n'ont pas été capables de ça. Et c'est ça ce qui est très grave. Quand tout le monde a hurlé quand le président de la République a dit « je veux emmerder les antivax », soit. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est la phrase d'après qui disait « je ne veux pas emmerder les Français, d'ailleurs, je passe des journées entières à fulminer parce que l'administration bloque ». Quand vous avez un président de la République qui est là depuis 4 ans et demi et qui dit ça, quel est le candidat qui va être capable de prendre la mesure du blocage du pays? C'est ça le sujet.
Bah, on n'en parle pas.
Qui en a parlé?
Bah écoutez,
posez-leur des questions, Pascal Pro.
Bah je pense qu'on parle en tout cas Valérie Pécresse propose il y a 3 jours que les RTT soient transformés en salaire, elle parle de l'entreprise. Pardonnez-moi, c'est un exemple.
Elle parle du pouvoir d'achat, ce qui est assez intéressant.
Ça a forcément une répercussion dans l'entreprise.
Oui, du coup que ça coûte à l'entreprise, ça on n'en parle pas, on ne le sait pas. Elle ne sait pas comment. Non mais
ça concerne l'entreprise, si vous voulez.
On ne peut pas balancer des mesures qui sont inapplicables, irréalistes.
C'est inapplicable, ça, ce qu'elle a proposé, par exemple?
Tel quel, il y en a pour 2 ans de magouille et de commission pour voir si. On ne sait pas où on va trouver l'argent pour le faire. Les RTT, c'est quelque chose qui devrait être dépassé depuis longtemps. En même temps...
Qui devrait quoi?
Qui devrait être fini depuis longtemps, les RTT.
Vous voulez mettre tout le monde au travail, vous, c'est Zola. Vous voulez mettre tout le monde...
Mais comment la
4e semaine, 5e semaine de congés payés, c'est trop pour
non,
vous.
Non, les congés, j'aime bien.
Bon.
Mais en revanche, je pense que les Français ont envie de travailler, mais on leur a fait perdre le goût du travail. On leur a expliqué que leur devoir était de ne pas aller au boulot en ce moment.
C'est un peu caricatural, si vous me permettez. Mais bon, c'est vrai que vous êtes une chef d'entreprise et que c'est des logiques parfois qui
sont contradictoires. Ils ont monté leur boîte quand on a 2-3 personnes et qu'on vous dit qu'il faut 3... c'est tuer les boîtes. Alors on donne de l'argent que nous rembourserons. Car les seuls qui rembourseront l'argent qui est déversé, c'est nous.
Bon, vous êtes les autres sont des non pas des cons, même si on va parler de ce sujet. Mais il n'y a que les chefs d'entreprise qui sont...
Qui gagnent de l'argent.
Mais il y a.
Si t'es ment.
Mais vous êtes, comment dire, les chefs d'entreprise, faut aussi que vous considériez que vous avez avec vous des employés qui font l'entreprise.
Évidemment, c'est ma boîte, les employés.
Voilà. C'est vous n'êtes pas
c'est
tout seul.
C'est leur boîte. Mais, ils aimeraient qu'on parle d'entreprise, les salariés.
Mais j'en suis convaincu. Mais la transition que j'ai faite pour la connerie, si j'ose dire, c'est parce qu'on se demande si on est de plus en plus con. Pardonnez-moi d'être un peu trivial avec cette question, mais c'était cette semaine l'enquête du magazine Society. En tout cas, je vous remercie. Parce que c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Il y a de l'énergie chez vous, il y a de l'enthousiasme, il y a de la passion. Et
convictions.
Puis il y a des convictions, bien sûr.
J'ai droit au coffret ?
Ah ben je vous le donne, vous avez le droit au coffret, exactement.
J'ai bien répondu. 50,
eh bien, 50 ans, et puis vous avez quelque chose qui est agréable, c'est que vous êtes sympathique, Sophie.
Merci.
Donc ça, ça fait passer
Merci,
beaucoup
Pascal.
De choses. Il est 14h07, nous marquons une pause. Si vous voulez aller saluer également Monsieur Boubouk.
Mais oui.
Ouais, parce que c'est un homme qu'il faut prendre en main.
Vous avez des conseils pour la Belgique ?
Ah, oui. Bien sûr, parce que vous avez un peu d'expérience, peut-être.
Avec
et puis,
grand plaisir.
C'est un jeune homme, vous savez, qui a besoin un peu d'être mis sur les rails.
Ah, oui, ça,
c'est sûr.
Bah, oui, mais vous serez gentil avec Sophie de Menton.
Ah, mais oui, mais je pense que Sophie de Menton va me recruter. Je pense que c'est possible, hein, Pascal.
Tout à fait.
Ça, c'est. Oui,
quoi. On ne peut recruter personne en ce moment, ça, on ne l'a pas dit.
Vous êtes
on parle du chômage, on n'a personne à recruter.
Ah, oui, c'est vrai, vous aviez oublié ce détail. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro
et Laurent Tessier.
L'élection de Mister France a lieu samedi à Paris. Quel est pour vous, tiens, le plus bel homme de France, voire même du monde? Est-ce que vous vous dites en voyant un acteur, un chanteur à la télévision?
J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tes gestes en lentement.
Sensualité. Ah, quel
ah, j'adore ça.
Eh bien, dites-nous au 3210, quel est le plus bel homme pour vous de France, voire même du monde?
Moi, je sais quel est le plus bel homme du monde.
Je sais.
C'est qui?
Alain Delon.
Exactement. C'est un accident génétique. Sur les 8 milliards de personnes qui sont aujourd'hui sur Terre, personne n'est aussi beau qu'Alain Delon quand il avait 30 ou 35 ans. Personne.
Personne.
Personne, personne,
ah, oui,
personne. Et vous pouvez prendre toutes les photos possibles d'Alain Delon. Là où il faudrait, chez certains, trois sèche-cheveux pour arriver à mettre la boucle comme il faut, ou l'attitude comme il faut, etc. Toutes ces photos, il ressort exceptionnel. Donc, c'est un accident, ça s'appelle un accident génétique. C'est l'homme, c'est le plus bel homme du monde à jamais. Nicolas est avec nous, Nicolas est royaliste.
Bonjour, monsieur, et vous?
Bah, ça va très bien, mais vous êtes professeur d'histoire géo. Vous habitez la Vendée, qui est une terre particulière de ce point de vue-là, et vous dites que vous êtes royaliste. Mais ça veut dire quoi être royaliste aujourd'hui ?
Il y a plein de fantasmes autour de cette notion de royalisme. Le royalisme politique, à proprement parler, tout ce qui est Action française, Maurras et tout ça, non, moi, je n'en fais pas partie, ça ne me concerne pas, je ne me sens pas concerné par ce genre d'idée. Par contre, en tant qu'historien, une réflexion autour de la monarchie, du modèle même de gouvernement de monarchie, peut être encore aujourd'hui d'actualité, après tous les sujets que vous avez traités précédemment dans votre émission.
Et je rappelle qu'on en parle aujourd'hui parce qu'on est le 21 janvier, que symboliquement c'est la fin de la royauté en France, en tout cas avant le retour de Louis XVIII. Mais,
symboliquement un petit peu avant, parce que la République est proclamée le 22 septembre 92 et le roi est arrêté depuis le 10 août.
Oui, oui, je parle. Partage votre avis. On est d'accord que Louis XVIII, Charles X et Louis XVI, c'est les trois frères, hein ?
Vous m'avez dit Louis XVIII, Charles
Louis XVIII, Charles X, Charles X, c'est le dernier des rois des
tout
Français.
Fait, le comte d'Artois.
C'est, voilà, c'est pas le roi de France d'ailleurs, c'est le roi des Français, Charles X. Mais Charles X, Louis XVIII et Louis XVI étaient les trois frères, et ces trois là ont régné. Bon, vous n'êtes donc pas pour la monarchie de droit divin?
Non, même si la monarchie de droit divin n'est pas l'absolutisme ou la tyrannie telle qu'on a voulu nous la décrire. Il y a des lois qui fixent et qui encadrent.
Je veux bien, mais bon... Enfin, avant la Révolution française, quand même, le tiers-État, le clergé et la noblesse, c'était difficile quand on essaie dans le tiers-État de passer dans la noblesse. C'était même impossible.
Ah mais parce que la société était vue comme un corps. Et dans un corps, votre poumon n'a pas la même fonction que le cœur, n'a pas la même fonction que la tête.
J'entends bien, mais il y a une forme d'absolutisme là-dedans. Si tu ne peux pas changer ta position sociale.
Après, la bourgeoisie, par exemple, c'est le tiers-État. C'est elle qui possède la richesse monétaire, pécuniaire. Tandis que la noblesse, par exemple, à l'époque, n'a pas le droit de faire du commerce.
Bon, alors, vous dites que vous êtes royaliste. Est-ce qu'il y a aussi aujourd'hui un État au monde, selon vous, qui fonctionne avec une monarchie qui peut, à vos yeux, être inspirante?
Mais regardez autour de vous. Vous avez l'Angleterre, vous avez l'Espagne, vous avez la Belgique, vous avez les Pays-Bas.
Bah, elle est symbolique. La reine d'Angleterre, elle a un pouvoir, mais c'est un pouvoir moral, pourquoi pas, un pouvoir symbolique, mais pas un pouvoir exécutif.
Et que s'est-il passé entre 89 et 92, une monarchie constitutionnelle, où finalement, les valeurs républicaines peuvent très bien s'incarner déjà à l'origine dans cette
Donc,
monarchie
ce que vous voudriez, vous, c'est un système à l'Espagnol ou à la France, à l'Angleterre, pour la France.
je vous ai dit, moi je ne suis pas un monarchiste politique. C'est plus un, une forme de nostalgie, mais
un repère.
Une réflexion. Un repère, une réflexion.
Et, même, et qu'est-ce que ça changerait à votre avis? Pourquoi ce serait utile?
Quand on a, j'aime pas faire de la politique et même ma fonction d'enseignant impose une certaine neutralité. Mais le devoir d'un roi va au-delà de sa volonté d'agir. Récemment, on a eu un président qui a fait valoir sa volonté d'agir en faveur ou en défaveur d'une catégorie de la population. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, hein. Ça je laisse chacun en juger. Mais vous voyez la nuance quand même.
Bah, je perçois mal l'utilité pour vous à avoir une figure tutélaire d'un roi aujourd'hui. Je saisis mal ce que vous avez voulu me dire.
Le roi est le père de son peuple, le père
d'accord.
de la nation.
Et donc en c'est tant ça que vous aimeriez.
En tant que tel, il doit être au-dessus un peu de toutes les factions. C'est d'accord. un idéal, je le reconnais.
Donc vous pensez que s'il y avait aujourd'hui un roi, il jouerait ce rôle d'apaiser, pourquoi pas, les tensions de repère dans la société française, c'est ça?
Mais n'est-ce pas ce qu'on entend un petit peu du président quand on entend un petit peu tous les débats? Un personnage comme De Gaulle, et même dans la campagne politique, oui. on entend souvent le devoir d'un candidat ou d'un futur président ou quelqu'un qui revendique une telle fonction, ce serait de rassembler. Mais n'est-ce pas un peu cela?
C'était en tout cas, la Ve République était construite comme ça et De Gaulle avait fait une forme de synthèse de 1000 ans d'histoire de France avec un pouvoir exécutif fort, disons-le, hein, qui rappelait le pouvoir du monarque, mais qui était tempéré et fortement tempéré par des assemblées. Mais il y avait de cela dans la Ve République. C'est pour ça d'ailleurs que la Ve République, qui est souvent attaquée, critiquée, c'est peut-être ce qui nous permet aujourd'hui de traverser ces périodes de crise parce qu'elle est solide, la Ve République, c'est peut-être la dernière chose qui est solide en France, la Ve République, même si elle a été un poil dévoyée avec, avec le quinquennat d'abord et avec l'élection des députés en même temps que l'élection présidentielle.
Tout à fait. Et après, la monarchie, le royalisme, il y a une idée d'une stabilité et d'une temporalité. La monarchie a duré 1000 ans. Regardez le nombre de constitutions différentes que nous avons depuis 1789.
Bah, c'est vrai, on en a eu au moins 5.
Tandis que les États-Unis qui naissent à la même époque,
ils n'ont aucune. Mais rien n'est vraiment écrit de la même manière. C'est très curieux, hein, la constitution américaine. Mais bon, peu importe. Merci en tout cas, Nicolas. Je ne dis pas vive le roi, bien sûr, parce que ça ne serait pas condamnable. Je dis vive la République. Mais vous êtes professeur d'histoire géo. Vous êtes où en Vendée?
Je suis à Fontenay-le-Comte.
À Fontenay-le-Comte.
Et j'enseigne aussi à l'université catholique à l'IFES. Mais surtout, monsieur Pro, merci pour votre façon de traiter l'actualité. C'est vraiment un honneur d'avoir pu discuter vous aujourd'hui.
Eh bien, vous êtes gentil. Vous êtes gentil. Il y avait une chanson comme ça qu'on retrouvera peut-être en 71 ou 72. Il y a eu un grand opéra. C'était pas tellement la mode à l'époque. Un opéra musical où il y avait une chanson Chouan en avant par Saint-Denis, par Saint-Jean. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. Monsieur Matouk, qui est avec nous, Danny Matouk, aujourd'hui. La pause et on va parler des cons. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il y a les petits cons, les grands cons, les vieux cons, les pauvres cons, les sales cons. Sommes-nous de plus en plus cons? C'est l'enquête cette semaine de Society, qui est un magazine. Bonjour Marie-Agnès.
Bonjour Pascal.
Quelle est votre réponse?
Alors, ma réponse, écoutez, ça dépend ce qu'on entend par con. Parce que quand vous dites con, ça veut dire, ben, celui-là, il est bête. Mais vous avez des gens qui sont très intelligents et qui sont cons de prétention. Voilà. Mais moi, je trouve en effet que les... Enfin, si on entend con par inintelligent et acculturel, et sans culture, je trouve que de plus en plus.
Vous trouvez que la connerie, donc, avance. Et que le bon sens ou la culture ou l'intelligence recule.
Oui.
Alors,
ça dépend aussi de l'éducation que vous donnez.
Oui, alors c'est une attitude, la connerie, mais c'est difficile à définir. Alors, comme il reste très peu de temps...
Par exemple, je trouve con le type qui s'impatiente avec sa moto et qui, brusquement, va passer sur le trottoir et manquer de vous écraser quand vous sortez de chez vous.
Ça, c'est con, effectivement.
Voilà, ça, c'est con.
Colette est avec nous également et je voulais aller vite parce qu'il reste quelques secondes simplement. Colette.
Oui.
Bonjour Colette.
Est-ce je suis petite par la taille et bien con par la connerie.
Vous êtes con, dites-vous?
Bah oui, mais fier de l'être.
Ah bah moi, j'ai jamais entendu quelqu'un qui disait je suis con. Généralement, on dit toujours c'est l'autre qui la
bah
connerie,
non,
c'est pour les autres.
Bah non, quand quelqu'un disait Gino, t'as pas le droit d'être con, c'est moi qui l'ai. Puis j'ai dit à le rester.
Et pourquoi vous dites que vous êtes en l'occurrence
conne? Bah parce que c'est mon caractère comme ça. Et puis bon.
Mais ça veut dire quoi? Quelle est la dernière chose conne que vous ayez faite? Et pardonnez-moi d'être trivial.
Bah, j'ai un petit peu oublié, donc ça
m'arrange
un peu.
Vous n'êtes pas si con que ça, bah, alors.
À mon âge, je commence à oublier. Donc, bon,
mais qu'est-ce que vous faites, par exemple, de très con dans la vie?
Bon, je sais pas. C'est les autres qui me le font remarquer, puis j'y dis, bah, tant mieux.
Mais par exemple, qu'est-ce qu'ils vous ont fait remarquer récemment?
Bah, des fois, j'ai des gens qui disent des trucs, j'ai dit, oh, bah, c'est complètement faux que vous dites. Mmh. Oh, bah, encore une quéconque. Bah, j'ai dit, oui, je suis point fier de l'être.
Ah oui, bon, bah, effectivement. Alors, en tout cas, non, c'est un peu con de répondre, con et fier de l'être.
Bah, c'est-à-dire que. Je sais pas, moi, de par ma profession, j'ai tellement croisé des gens imbus de leur personne, et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas.
Ah, moi non plus.
Ah non. Bah écoutez, je vais
vous
dire...
Vous faisiez quoi, Colette?
Bah, j'ai commencé à travailler comme bonne, après je suis rentrée travailler à l'hôpital en pédopsie, et après je suis retournée à l'école pour avoir mon diplôme d'aide-soignante, et je suis allée chez les personnes âgées.
Et vous avez trouvé des gens dans votre vie qui sont un peu cons. Marie-Agnès, vous rencontrez régulièrement, chaque jour, des gens que vous trouvez un peu cons?
Oh, oui, un peu, quelquefois.
Ah, oui.
Dans mon
entourage, j'ai quelqu'un qui est excessivement intelligent, qui a fait des tas de diplômes et tout ce qui a des tas de diplômes, je vous dirai pas lesquels, parce que si jamais on m'entend, on comprendra, et qui ne s'adresse pas à certains de son entourage parce qu'ils sont pas suffisamment diplômés, et dans une réunion de famille, ne s'adresse pas à eux parce qu'ils sont pas suffisamment diplômés.
Bah oui, ça c'est
cool. Ah oui, ça je l'ai un peu
c'est
vécu.
Bête et
voilà.
Méchant. C'est
voilà,
vrai,
tout, alors moi il me prend un peu pour ceci. Bon, j'ai quand même 74 ans. Et à l'époque, pour une fille de mon époque, j'ai un diplôme de sciences politiques et tout ce que vous voulez. Donc je ne pense pas être homme, mais
il vous traite mal. Effectivement, dans la connerie, il y a ce côté méprisant.
Il me tourne sensiblement le dos.
Il est 14h24, oh là là. Il est 14h24, c'est vendredi, je mange des mots. Il est 14h24, that's got it Friday. Ah. Le débrief, merci à Marie-Agnès, merci à Colette et merci à Dany Matouk qui était avec nous aujourd'hui.
13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
Est-ce bientôt le retour des jours heureux? Le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier soir la levée de la plupart des restrictions en février. Anne est infirmière et elle trouve que ce n'est pas raisonnable.
Je crois que là, on est en pleine manœuvre électorale et on va beaucoup, beaucoup trop vite.
Coup de gueule de Fabien, mais lui, il n'en peut plus des restrictions.
On est à bout, on en a marre. Ceux qui ont peur, eh ben ils restent chez eux. Hein, ceux qui ont fait mai 68, parce que c'est on protège encore. Et il y en a ras-le-bol des boomers. Il y en a ras-le-bol. On aurait mis aujourd'hui un chef d'entreprise à gérer cette crise, on l'aurait mieux géré.
Le 16 février, ce sera la réouverture des boîtes de nuit. Morgane est patron d'une discothèque dans les Hauts-de-France.
Nous sommes contents de rouvrir, Pascal, mais nous n'avons pas le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que le geôlier nous donne les clés de nos ouvertures. Bien entendu, on les prend, mais nous ne sommes pas naïfs, nous sommes même très lucides.
Et puis, invité exceptionnel des auditeurs ont la parole tout à l'heure, Sophie de Menton. Présidente du mouvement patronal éthique.
Une reine de l'entreprise est avec nous, Madame de Menton.
Je suis une bonne bourgeoise alliée à un aristocrate.
Et en sa présence, nous avons posé aussi une question essentielle ce midi.
Sommes-nous de plus en plus cons?
Ah voilà une question intéressante, une analyse aussi pertinente.
Moi j'ai l'impression qu'il y a plus de cons que de connes.
On dit plutôt gros cons que grosses connes souvent.
J'ai l'impression.
Ah, on sent que c'est vendredi aujourd'hui. Une autre question non essentielle s'il vous plaît.
Quel est pour vous le plus bel homme de France?
Bon, c'est vous Pascal.
Non.
Oh, Agnès Bonfillon quand même, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est...
Monsieur Boubouk.
Mais oui, Monsieur Boubouk et ses aventures.
Monsieur Boubouk, c'est le grand moment.
Le moment
je vois moment. Dans ma boule cette semaine. Une rencontre. Je vois l'amour, mon chéri, qui va arriver ce week-end.
Aïe, aïe, aïe. Monsieur Boubouk sera ce week-end en Belgique, à Bruxelles, pour son anniversaire avec deux amis masculins.
Vous êtes plutôt enclin à chercher l'amour dans le sexe opposé.
Mais exactement, Pascal. C'est pour ça que je vais à Bruxelles. Ça ne marche pas sur le territoire national.
Ah, oui. Et mesdames, messieurs, un challenge est lancé. Ah, un son pour l'histoire. Comptez sur nous pour garder cette déclaration.
Oh, je vais revenir avec une Bruxelloise, attends, c'est sûr.
Vous allez revenir avec une Bruxelloise?
Je pense, je le sens.
Eh bien, écoutez...
Je suis mesmer.
Ah, vivement lundi. Olivier, notre monsieur Boubouk, j'ai un conseil à lui donner pour ce week-end. J'écoutais très attentivement le docteur Frédéric Salman, invité de RTL Petit Matin avec Dominique Tenza.
Oui, alors il y a des aliments qui sont des éteignoirs de la sexualité, d'autres comme le céleri qui vont l'optimiser.
Oh, donc allez tout de suite au marché à la sortie de RTL, acheter du céleri. En attendant, vivement le 16 février et la réouverture des boîtes de nuit.
Bienvenue au Macumba Nights.
Ambiance totale, s'il vous plaît. Bienvenue au Macumba Club. DJ Bobo va ambiancer toute la salle. Jean-Alphonse Richard est déjà en train de bouger son popotin. Allez, le débrief pour cette semaine, c'est terminé. Vivement lundi pour le week-end de Monsieur Boubouk.
Merci Laurent, c'était parfait comme d'habitude. Jean-Alphonse, ce que vous allez nous raconter dans quelques instants est une histoire absolument passionnante et qui concerne des célébrités.
Oui, absolument, c'est la mort très étrange, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'actrice Natalie Wood, La Fureur de Vivre, West Side Story. Eh bien, c'est une noyade qui n'est pas banale, on va le dire comme ça. Et c'est tout de suite dans l'heure du crime.